France Culture.
Et on reprend le voyage avec les Midi de Culture. Bienvenue à toutes et à tous. À 13h, comme promis, on discutera avec les réalisatrices Nathalie Maduro et Valérie Urrea. Mais tout de suite, place au Point Culture de Marie Sorbier. Bonjour Marie.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Sortent en salle aujourd'hui trois films emblématiques de la nouvelle vague hongkongaise qui ont renouvelé le langage du cinéma local en se laissant influencer par l'Occident et par le reste de l'Asie dans la fin des années 70. Alors deux films de Hanoï et un de Stanley Kwan sont à découvrir en version restaurée grâce à Carlotta Film. La nouvelle vague hongkongaise à nouveau au cinéma, c'est le dossier du Point Culture du jour. Stéphane Humenildo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes critique de cinéma, spécialiste du cinéma asiatique. Sortent en salle, en version restaurée, trois films de la nouvelle vague hongkongaise. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter ce mouvement, cette nouvelle vague-là? Comment est-il, quand et avec qui?
Alors, c'est une nouvelle vague qui arrive pendant les années 70. Alors, au départ, ce sont des jeunes cinéastes dont certains sont allés faire leurs études de cinéma à l'étranger. Je pense à Tzu Ark, par exemple, qui est allé à Los Angeles, ou Hanoï, qui, elle, est allée étudier à Londres. Et donc, ils vont apporter vraiment un nouveau souffle, des nouveaux thèmes. Alors, certains, dans le cadre de maisons de production indépendantes, ça, c'est le cas de Tzu Ark, mais aussi dans des compagnies très, très célèbres et puissantes à l'époque, comme la Shaw Brothers, qui vont essayer de renouveler un peu le genre de film. Par exemple, eux, c'était des compagnies très axées sur le film d'arts martiaux. Bon, et donc, ils vont accueillir d'autres thèmes grâce au film d'Hanoï et de Stanley Kwan.
Mais alors, par exemple, quels grands thèmes sont traités par cette nouvelle vague?
Tout simplement, la condition féminine, dans le cas de Hanoï, mais aussi de Stanley Kwan, qu'on pourrait qualifier comme un cinéaste de Women Pictures. Voilà, ces films qui sont centrés sur la condition féminine, sur des destins de femmes, qui étaient des sujets finalement qui étaient assez peu traités par le cinéma hongkongais.
Alors, dans ces trois films qui ressortent en salle, il y a notamment deux films d'Hanoï, Boat People notamment, qui avait été présenté à Cannes en 1983, je crois, et Love in a Fallen City. Est-ce que vous pourriez nous présenter ces deux films-là? Ils sont très différents d'ailleurs, les deux.
Oui. Boat People, c'est un film qui est très, très âpre, très dur sur un reporter qui avait couvert la guerre du côté Viet Cong et qui revient ensuite au Vietnam pour constater les avancées du régime. Et en fait, on lui déroule devant lui tout un paravent de propagande. Il va devoir aller derrière cette image qui est tout à fait orchestrée pour découvrir la réalité de la condition de vie des Vietnamiens. Alors, la prostitution, des enfants qui détruisent des cadavres, des prisonniers qui déterrent des mines, etc. Donc, c'est un film qui est assez violent, assez dur, et qui va anticiper un peu un courant du cinéma de Hong Kong, qui sera celui de Tzu Ark et John Woo, lorsqu'ils vont prendre le Vietnam comme cadre pour Une balle dans la tête pour John Woo et pour Le syndicat du crime 3 pour Tzu Ark, où ils vont faire du Vietnam communiste une allégorie de la Chine communiste, de la rétrocession, des craintes de la rétrocession.
Et dans le deuxième film d'Hanoï, justement, on revient sur ces sujets plus féminins. C'est un film qui tourne vraiment autour de la femme et des premiers divorces, on peut dire ça?
Oui, voilà. Donc, on va retrouver une actrice qui est dans les trois films, qui est Cora Miao, qui est sûrement une des plus grandes actrices des années 80 à Hong Kong, qui va incarner justement cette femme, une femme nouvelle en quelque sorte, avec des préoccupations très contemporaines, même si Love in a Fallen City se passe dans les années 40, justement une femme qui divorce, une femme qui cherche son indépendance et qui n'est pas forcément la femme d'un homme. Donc c'est à ce titre-là qu'on peut dire qu'il y a vraiment un courant féminin et féministe dans le cas de Hanoï, Hanoï qu'on pourrait qualifier comme la Agnès Varda de Hong Kong, puisque c'est vraiment une des premières femmes cinéastes. Elle a tourné des films de sabre, elle a tourné des polars, mais aussi toute une série de films politiques et très personnels et très concernés par la condition féminine.
Alors, elle est un peu plus d'ailleurs connue en France, mais le troisième film, c'est Woman, le premier film de Stanley Kwan, qui lui est peut-être un peu moins connu. Il est quand même considéré comme un disciple d'Hanoï. Est-ce que vous pourriez nous présenter alors son cinéma?
C'est un cinéma, donc, encore une fois, de la condition féminine, mais avec aussi une dimension homosexuelle, puisque c'est un des premiers cinéastes hongkongais à avoir franchement fait son coming out, je pense, en 96. Donc, c'est pour ça que dans Woman, qui est une chronique de la vie de plusieurs femmes, soit divorcées, soit célibataires, Il y en a une qui est lesbienne, ce qui était un personnage qui était aussi très très inédit, en tout cas dans le cadre de la du cinéma contemporain.
Alors, puisqu'on parle de nouvelle vague, est-ce qu'il y a des points de comparaison avec la nouvelle vague française quand on parle de cette nouvelle vague hongkongaise ?
Oui, il y en a évidemment. Hein. D'abord, bon, évidemment, il y a la jeunesse des cinéastes. Il y a cette envie de s'ancrer beaucoup plus profondément dans la société hongkongaise, mais aussi de révolutionner les formes. Hein. Je pense au cinéma de Tsui Hark et John Woo, hein, qui vont reprendre des formes très classiques, par exemple le film de sabre ou le polar, pour leur insuffler vraiment de la modernité. Pour ce qui est de Hanoi et Stanley Kwan, c'est vrai que Boat People, il y a une dimension presque néo-réaliste dans vraiment la volonté de tourner en décor naturel. Et puis, il y a des acteurs, évidemment, qu'on va retrouver. Alors, Chow Yun-fat, par exemple, on parlait de John Woo. Voilà, Chow Yun-fat, on le connaissait dans le rôle des tueurs, hein, de The Killer et du flic de toute épreuve. Et là, on découvre un autre Chow Yun-fat qui est un jeune homme extrêmement glamour, extrêmement charmeur. Alors bon, très très glamour dans Love in a Fallen City, où vraiment oui. Il est habillé avec son vêtement blanc. Enfin bon,
son costume en lin blanc.
Ouais, il est absolument irrésistible. Et puis on le retrouve en mari, comment dire, mari pas très capable, hein, un pas très bon mari dans Women, où là il a vraiment un côté. Bon voilà, c'est aussi un acteur de comédie, quoi. C'est un Cary Grant chinois. Voilà. Donc ça, c'est un renouveau des genres, un renouveau des cinéastes et des acteurs. Bon, Cora Miao, dont on a parlé, et puis Chow Yun-fat.
Est-ce qu'on peut parler de cinéma d'auteur concernant ces films-là ?
Oui, bien sûr. Hein, dans le cas de Hanoi, c'est vraiment elle va traiter de l'exil, elle va traiter de la diaspora chinoise, de gens qui sont un peu éclatés dans tous les coins du monde. Stanley Kwan, il a ce regard extrêmement précis sur les femmes chinoises, hein, dont il fera par exemple l'apologie de l'actrice de Center Stage. Oui, ce sont vraiment des auteurs en fait, hein, mais finalement Tsui Hark et John Woo étaient aussi des auteurs. Et puis maintenant, on se rend compte, quand on redécouvre les grands films de sabre, que des gens comme Chang Che, King Wu ou Liu Xiaolong sont aussi des auteurs. Donc, le cinéma de Hong Kong est vraiment, finalement, un cinéma d'auteur.
Un dernier mot pour conclure cet entretien. Est-ce qu'il y a une spécificité du cinéma hongkongais par rapport au reste des cinémas asiatiques, selon vous ?
Lorsqu'ils tournent leurs films, justement, ces cinéastes de la nouvelle vague, Hong Kong a une poussée économique. Donc, c'est un cinéma qui est extrêmement moderne, extrêmement rapide, un peu clinquant. Je pense à Women, par exemple, hein, qui a une sorte de fraîcheur, même si les thèmes sont assez graves aussi, mais il y a une sorte de fraîcheur, de comédie, etc., qui est peut-être plus accentuée, évidemment, que dans le cinéma coréen, qui à cette époque était encore englué dans une dictature extrêmement sombre, ou le cinéma japonais qui est connaissait la crise des studios, donc essayait de trouver des thèmes pour se renouveler, mais était quand même un cinéma en crise. Là, c'est un cinéma qui est extrêmement florissant, et je pense que lorsqu'on voit l'attitude, le visage de Chow Yun-fat dans Women, par exemple, on se rend compte que c'est un cinéma qui est prêt à un peu à dévorer le monde, quoi. En fait, hein. C'est extrêmement, extrêmement euphorisant.
Bon ben, rendez-vous en salle alors pour découvrir ou redécouvrir ces trois films-là. Merci beaucoup, Stéphane Humilido.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, on vient d'apprendre que Wajdi Mouawad n'irait pas au bout de son mandat.
Oui, le metteur en scène à la tête du Théâtre de la Colline depuis 2016 a annoncé qu'il mettait fin à ses fonctions en mars 2026, un an avant la fin de son mandat. Wajdi Mouawad dit souhaiter se consacrer sur l'écriture d'un roman notamment, mais aussi sur ses projets de mise en scène.
Les presses universitaires de France ne publieront finalement pas un livre jugé anti-woke.
Face à l'obscurantisme woke, c'est le nom de l'ouvrage collectif qui était sur le point de paraître lorsque la maison d'édition a rétropédalé. L'annulation de la sortie d'un livre dénonçant un certain obscurantisme peut paraître paradoxal, mais les presses universitaires de France ont estimé que les conditions nécessaires à un accueil serein ne sont plus réunies. On peut rappeler quand même que plusieurs contributeurs de cet ouvrage censés alerter sur les dangers des idéologies décoloniales, des théories de la race et du genre, je les cite, appartiennent ou ont appartenu à l'Observatoire de l'éthique universitaire, financé par le fonds Périclès du milliardaire catholique Pierre-Édouard Sterlin.
Et pour finir, la 23e Biennale de danse du Val-de-Marne s'ouvre aujourd'hui.
À Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Créteil, Chantilly ou encore bien d'autres villes du département, cette édition se décline jusqu'au 12 avril sur le thème de la nuit. Pendant un mois, 65 représentations pour 22 projets investiront 28 lieux. Il y aura la danse house et hip-hop du groupe exclusivement féminin Paradox Salle, mais aussi Renverse, une interprétation corporelle des courants marins par les 8 interprètes du chorégraphe Fabrice Lambert, ou encore un solo hybride de danse espagnole par Paul Jiménez. Et pour inaugurer la Biennale, les habitants seront au centre de l'attention ce soir avec la danse de Vitry qu'ils ont co-chorégraphiée cette semaine avec Guillaume Mondepalol et Ghislaine Gau.
Merci Marie, et on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles. En attendant, il est 13h et vous êtes sur France Culture.